un petit peu cet état primitif dans lequel Dieu avait constitué l'homme, voilà, ce bonheur auquel Dieu destinait l'humanité, quelque chose d'extraordinaire. Et ce plan primitif de Dieu est quelque chose de confondant. Alors qu'on ne dira jamais assez merci au bon Dieu pour ça. Et ce partage de son propre bonheur, ce partage de sa béatitude, de sa gloire, comme ça, gratuitement, sans aucun mérite de notre part, alors que nous n'avions rien fait pour cela, rien demandé. Voilà. C'est ça le bon Dieu. Le bon Dieu, il donne. Et qu'est-ce qu'il demande en échange? Ben, tout simplement qu'on lui dise merci, ou à peu près. Voilà, qu'on soit gentil avec lui, qu'on fasse à peu près ce qu'il demande. Et à ce moment-là même, il continue à distribuer. Ouais. Si on est bien sage, si on est soumis à sa volonté, eh bien le bon Dieu redonne encore un peu plus de ce qu'il avait donné au début. Ouais. Et c'est ce qu'il voulait faire. Ayant établi Adam et Ève dans un état de perfection, que l'on appelle la justice originelle, ouais, quelque chose d'extraordinaire, eh bien il voulait encore élever Adam et Ève à un autre bonheur, encore supérieur à celui-là, qui était le partage de sa gloire, ouais, entrer dans sa propre vie à lui. Et seulement pour ça, ben, il fallait tout simplement qu'Adam et Ève soient sages, qu'ils disent merci, bon, puis qu'ils se conduisent comme des enfants bien, bien obéissants, ouais, voilà, qu'ils reconnaissent qu'effectivement tout cela, ils le devaient à Dieu, qu'ils lui disent merci, puis qu'ils continuent à vivre bien comme il faut. Voilà. Et puis, malheureusement, eh bien, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est donc ce que nous allons considérer un peu. Alors, c'est bien, c'est peut-être un petit peu difficile tout cela, surtout la question du péché originel n'est pas la question la plus facile, hein, dans notre religion. Alors j'essaierai de la rendre à peu près claire, mais ça reste un mystère, hein, de toute façon. Donc ne me demandez pas de tout vous expliquer, parce que j'en suis incapable et tous les hommes en sont incapables. C'est un des mystères de Dieu. Ouais, exactement. Où se situe le mystère? C'est pas tellement dans le péché originel, c'est plutôt dans le comment de la transmission de ce péché originel. Comment nous, qui naissons aujourd'hui, eh bien, pouvons-nous naître sans avoir rien fait, rien dit, naître avec un péché? Voilà. Un péché qui est donc quelque chose de volontaire, ouais, quelque chose de ma volonté à moi, alors que le jour de ma naissance, eh bien, je n'avais encore rien dit et rien demandé à qui que ce soit. Et pourtant, je suis né en état de péché. Bon, alors c'est là qu'est le mystère. Bon, nous essaierons de... Je vous exposerai ce que l'Église a défini là-dessus, ce qui est de foi, donc, et puis ensuite, eh bien, l'explication la plus juste, bon, que l'on puisse donner, mais qui n'est, de toute façon, qui ne sera jamais complète. Oui. Comme disait le bon Père Bariel, eh bien, monsieur, nous comprenons tout ça au jugement dernier. Hein. Alors d'ici là, ben, ma foi, croyons la chose, même si nous ne la comprenons pas complètement. Alors, dans cette question du péché originel, nous verrons, il y a quatre points à voir. D'abord, le péché qu'on appelle le péché originant, qui est le péché qu'ont commis, Adam et Ève. Ouais. Quel a été ce péché qu'ils ont commis? Ensuite, il y a ce qu'on appelle le péché originé, c'est-à-dire ce péché donc qui se transmet aux générations, ouais, qui ont succédé à Adam et Ève. Troisième point qu'il faudra voir, je pense que nous verrons à peu près ces trois points-là aujourd'hui, c'est le comment de la transmission. Comment a pu se faire cette transmission? Comment expliquer ce fait, ce phénomène un peu bizarre, hein? Et puis le quatrième qui est assez important, c'est pourquoi je pense que nous le laisserons pour la prochaine fois, et qui est très important aussi pour nous, alors là directement, ce sont les conséquences, les effets de ce péché originel. Toute cette foule de conséquences et qui peuvent nous conduire à des questions toujours un petit peu délicates, hein, notamment une question très délicate, qui est difficile à bien comprendre. C'est la question du sort des enfants morts sans baptême. Difficile, ça, c'est sûr. Et pourtant, ben, enfin, on verra ça, donc on en parlera. Tout ça, ça fait partie des conséquences et des effets du péché originel. Alors tout d'abord, le péché originant, disons, hein, ce péché qu'ont commis nos premiers parents, ce péché commis donc par Adam et Ève, eh bien, vous en avez le récit scripturaire à deux endroits. D'abord à la Genèse, bien sûr, vous connaissez certainement ce passage. après la création que nous avons vue la dernière fois, et voilà que ben, une petite bête là, qui se promène, le serpent. Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et il dit à la femme, bon, vous connaissez, je pense, un petit peu, c'est pas la peine de lire intégralement, est-ce que Dieu aurait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, non, ben non, ça c'est des blagues, ça, hein, c'est des sornettes, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas, mais non, mais non. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oui. Donc le serpent suggère à Ève simplement que le bon Dieu a voulu se garder un certain privilège, mais qu'il pourrait très bien l'acquérir. Oui. Voilà. Vous mangerez de ce fruit et personnellement vous serez comme des dieux. Bon, et puis voilà, quand vous connaissez la suite. Hein. Ève qui prend du fruit, il n'était pas une pomme. Hein. Il n'est pas dit dans la Bible que ce soit une pomme, c'est un fruit, simplement. Bon. Et ensuite, elle en donne à son mari. Et voilà, ce nigaud qui mange, lui aussi, oui, de ce fruit, et puis à ce moment-là, bien. Et c'est là qu'il réalise, instantanément, il réalise, eh bien, ce qu'ils ont fait. Le fait par lequel ils réalisent, eh bien, c'est que leurs yeux s'ouvrent, et ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Bon. Ça y est, le désordre est installé. Bon. Alors après, toutes les conséquences. Hein. Adam et Ève qui cherchent à se camoufler pour que Dieu ne les trouve pas, comme si Dieu pouvait ne pas les trouver, etc. Ils essaient de se dissimuler, et puis Dieu, bien sûr, les trouve quand même. Et alors là, c'est comme quand on n'a pas changé. Hein. On essaie toujours de reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Hein. Pour Adam, il dit, mais c'est pas moi, c'est la femme qu'on m'a eu donnée. Alors quoi, si je peux même pas faire confiance à la femme qu'on m'a eu donnée, alors vraiment, ça marche plus, quoi. Bon. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas moi, c'est la faute du serpent. Mais avec le serpent, lui, ça, il peut se retourner contre personne, de toute façon. Alors, et ça, je crois qu'on n'a pas beaucoup changé pour ça. Hein. Toujours la réaction quand on est accusé de quelque chose, d'essayer de trouver un autre coupable. Et oui. C'est peut-être vrai, mais enfin, on est peut-être coupable aussi soi-même. Et puis, toutes les conséquences, hein, la condamnation. Et nous verrons cela. Donc ce premier passage donc, qui est net et qu'il faut interpréter au sens littéral. Hein. Attention, il y a eu tout un tas d'interprétations ou de soi-disant interprétations des rationalistes qui ont voulu voir dans ce récit une simple allégorie. Non, tout ça c'est une sorte de mythe, oui, pour faire comprendre quelque chose, mais qui en fait n'est pas historique. Oui. Des interprétations purement spirituelles. Et l'interprétation, je dirais, la dernière en date, celle de ce bon père dont nous parlions la dernière fois, là, Gustave Martelet, et qui est malheureusement, on dirait, une interprétation assez générale aujourd'hui, eh bien, c'est que ce péché originel, en fait, n'a pas d'existence en soi, mais c'est simplement le report, ouais, sur l'origine. Eh bien, de toutes ces misères, voyez, que nous voyons chez les hommes, nous constatons qu'il y a de la misère, du malheur, de la souffrance un peu partout. Alors, comme toute l'humanité est dans la souffrance, eh bien, si vous voulez, on focalise un petit peu tout cela sur un homme, ouais, auquel on donne le nom d'Adam, mais qui n'a jamais existé. Adam, ça n'est pas un homme réel, voyez, c'est une sorte de mythe, voyez, mais qui est une sorte de symbole, un peu, de l'humanité pécheresse et souffrante. Voyez. Mais tout ça, sont des histoires de bonnes femmes, quoi, un petit peu, quoi. Bon, pour faire comprendre des choses, mais ça n'est pas réel. Eh bien, si, c'est réel, c'est historique. Hein. Ce décret de la commission biblique, hein, que nous avions lu la dernière fois, le dit, c'est clair. Hein. Est-il possible de révoquer en doute le sens littéral historique qui touche au fondement de la religion, comme sont entre autres, etc., la formation, le bonheur originel, le commandement fait par Dieu à l'homme pour éprouver son obéissance, la transgression du commandement divin, etc. Non. On ne peut pas mettre en doute, oui, l'historicité de cet événement. Il y a eu donc effectivement une faute de Adam et d'Ève. Et vous avez un autre lieu scripturaire qui lui aussi est clair. C'est dans l'Épître aux Romains, un passage qui est assez connu, chapitre 5. Versets 12 à 21, c'est un passage qui est souvent cité lorsqu'on traite du péché originel, parce que lui aussi, il confirme, simplement, ce qu'il y a dans le livre de la Genèse, Car comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, c'est clair, c'est Saint Paul qui nous le dit, et Saint Paul est inspiré du Saint-Esprit. Donc la mort, le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, ainsi la mort est passée dans tous les hommes par ce seul homme en qui tous ont péché, etc. etc. Oui. Bon, la chose est donc claire, hein. Il n'y a pas à douter de cela, et tous ceux qui veulent mettre en doute le fait du péché originel, eh bien, je dirais, se mettre sur la route de l'hérésie, tout simplement. Ça, c'est deux fois. Et ce récit est même corroboré par d'autres passages de l'Écriture. Donc, vous voyez, le livre de la Genèse, l'Épître aux Romains. Vous avez également, au livre de l'Ecclésiastique, livre de l'Ecclésiastique, chapitre 25, versets 23-24, c'est par une femme que le péché a commencé, et c'est à cause d'elle que nous mourons tous. Bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas que la Genèse qui le dit, il n'y a pas que Saint Paul, il y a également l'Ecclésiastique qui le dit, c'est par une femme que le péché a commencé, c'est à cause d'elle que nous mourons tous. Ne laisse à l'eau aucune issue, ni à la femme méchante aucune autorité. Bon, etc. La femme méchante, attention. Également dans d'autres épîtres de saint Paul, mais vous me direz, bon, puisque c'est saint Paul, c'est sûr, il répète toujours la même chose. Oui, peut-être, mais enfin. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Mais je crains bien que comme Ève fut séduite par l'astuce du serpent. Oui, donc là, c'est encore plus précis, peut-être. Il reprend presque littéralement le récit de la Genèse. Ève fut séduite par l'astuce du serpent. Ainsi, bon, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne perdent leur simplicité à l'égard du Christ. Et puis également dans l'épître, la première épître à Timothée, au chapitre 2, versets 13 et 14. Ah, ça, c'est une épître que les femmes n'aiment pas beaucoup. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est inspiré, inspiré, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est pas saint Paul, hein. Or, le Saint-Esprit n'est pas misogyne, c'est impensable, ça. Bon. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit se tenir dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est Ève. C'est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, pourvu qu'elle persévère dans la foi, etc., etc. Bon, et donc, l'Écriture est claire, hein, et revient souvent sur le fait, hein, du péché originel. Alors, qu'est-ce qu'il faut admettre, si vous voulez, sur ce péché originel, le péché d'Adam et Ève? Eh bien, d'abord, c'est qu'il y a eu donc ce précepte particulier de Dieu. Il y a eu ce précepte, hein, nous l'avons vu, Dieu qui dit à Adam et Ève, eh bien, vous ne mangerez pas. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il y a donc eu un précepte donné par Dieu, une interdiction. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est quand même pas mal, vous l'avez dit, hein. Le paradis terrestre, tous les privilèges qu'il avait, bon, il avait pratiquement tout ce qu'il fallait. Bon, juste là, voilà, cet arbre-là, tu n'y touches pas. Bon. Un précepte, donc, clair. Hein. Pourquoi ce précepte? Eh bien, c'était précisément, eh bien, pour que Adam et Ève, eh bien, sous les passes dans cet état de bonheur supérieur, qui était l'état de gloire, mais qu'ils le méritent. Bon, c'était bien beau, déjà, ils étaient dans un état qui était déjà merveilleux. Ce deuxième état auquel Dieu voulait les élever était purement gratuit. Il était normal, légitime, et bien que Dieu demanda à Adam et Ève, et bien de donner une petite preuve, si vous voulez, bien de leur bonne volonté. Donc voilà, petit test. Voilà. Ce qui est tout à fait légitime. On ne peut pas reprocher à Dieu quand même, Dieu qui est propriétaire de sa création, et bien de demander à son enfant, hein, à Adam et Ève, et bien simplement de donner une preuve, un geste, oui, de bonne volonté, une preuve de leur soumission, de leur reconnaissance. Oui. Une preuve d'humilité. Eh oui. La chose en elle-même, vous voyez, ce précepte en soi n'est pas grave, nous le verrons tout à l'heure. Ce péché n'est peut-être pas le plus grave qui soit, pris en lui-même. Vous voyez. Bon, désobéissance, quand même. Bon, voilà, il y a des péchés beaucoup plus graves que cela, malheureusement. Mais la chose était grave, si vous voulez, par rapport justement à l'état dans lequel étaient Adam et Ève et par rapport aux préceptes de Dieu. Ils étaient dans un état de perfection tel, ils avaient une science telle, oui. Et bien qu'être infidèle dans cette petite chose, c'était quelque chose de gravissime. Oui. Gravissime. Beaucoup plus grave que pour nous, peut-être, dans notre état de déchéance, oui, des fautes qui en soi sont plus graves. Oui. Donc il y a eu ce précepte particulier de Dieu. Et ce péché fut un péché grave. Grave. Il est bon, de facto, d'abord. Nous pouvons le constater par les effets, hein, puisque depuis des milliers et des milliers d'années, eh bien, c'est la souffrance et la misère qui ravagent la terre. Donc ce n'était pas un petit péché véniel fait par inadvertance. Ouais, non, quand même. Hein. Ce fut un péché grave. Un péché grave en raison justement bien de cette perfection, cette pleine liberté, cette rectitude dans laquelle étaient Adam et Ève. Et ils avaient pleinement conscience de ce qu'ils faisaient. Ils avaient pleine conscience de ce qu'ils faisaient. Nous l'avons vu la fois précédente, ce texte de saint Augustin, où il dit que Ève n'a pas été trompée. Elle n'a pas été véritablement trompée. Elle n'a pas fait une erreur. Non, non, c'est que déjà, eh bien, il y avait en elle cet amour-propre, cet orgueil, ouais, sorte de désir désordonné, eh bien, de s'élever au-dessus de sa condition, ouais, d'être plus que ce qu'elle était. Et Adam, bien sûr, également. Ouais. Alors, quel fut ce péché ? Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur ce péché, des choses étranges parfois. Certains ont cru, ont dit que c'était un péché de gourmandise. Ah, le fruit était si beau, si appétissant, alors elle a craqué. Ben non, ou croqué, vous voulez, peu importe, mais enfin non. Ce n'est pas un péché de gourmandise, ce n'est pas un péché de sensibilité, ce n'est pas un péché inférieur. Et pourquoi ? Ça ne peut pas être un péché, je dirais, de la nature inférieure, mais à cause de l'intégrité. Et cette parfaite rectitude dont nous avons parlé la dernière fois, ouais. L'âme étant parfaitement soumise à Dieu par la grâce, la volonté, l'intelligence, tout cela étant parfaitement soumis à Dieu, les passions étant soumises à l'âme, à la volonté, et le corps étant soumis, etc., tout était parfaitement soumis et ordonné. Donc le désordre ne pouvait pas commencer par en bas. Ouais, si le serpent était venu chatouiller Ève, mais ça ne l'aurait pas du tout ému, si vous voulez, dans son intelligence et dans sa volonté. Oui. Non, parce que tout ça était parfaitement soumis, parfaitement contrôlé par la raison. Oui. Donc il fallait bien que le désordre entrât par la partie supérieure. Donc c'est un péché vraiment de l'esprit, péché de l'âme et non pas de la sensibilité. Il n'y a pas de possibilité chez Adam et Ève de révolte de la partie inférieure, ce qui est possible pour nous. Bien sûr, parce que nous, ben, nous sommes désordonnés, nous n'avons plus cette rectitude, cette intégrité. Mais alors que eux, non. Parfaite soumission. Et donc, que fut ce péché, ce premier péché ? Eh bien, ce fut bien sûr un péché d'orgueil. Oui. Ce péché a dû consister, eh bien, dans le désir. Le désir d'un bien spirituel, en fait, pas le désir du fruit, etc., mais le désir d'un bien spirituel. Ouais. Et ce désir devait dépasser la mesure, ouais. Un désir démesuré, et c'était donc un péché d'orgueil. Ouais. Ce précepte de Dieu, ne pas manger du fruit, mais ce n'était pas tellement le fruit en lui-même, c'était la science du bien et du mal. Ouais. C'est ça qui a été désiré de façon désordonnée par Adam et Ève. Ouais. Donc un péché d'orgueil, un désir désordonné, un désir démesuré de quelque chose peut-être de bien, la science du bien et du mal, ce n'est pas une chose mauvaise en soi, mais qui était réservée à Dieu, qui est réservée à Dieu, qui n'est pas possible à l'homme. Cette science parfaite du bien et du mal, bon, avoir la même connaissance, la même vue, hein, des choses que Dieu a, eh bien, elle n'est pas possible à l'homme parce que nous sommes sa créature, nous ne sommes pas le créateur. Hein. Et la créature ne sera jamais, ne peut pas être l'égale du créateur. Il n'y a rien à faire. Oui. Oui, c'est donc un péché d'orgueil, radicalement un péché d'orgueil. Oui. Strictement, la racine de ce premier péché n'a pas été un péché de désobéissance. Saint Thomas nous dit bien, non, Radicalement, le péché n'est pas un péché de désobéissance. Oui. Ce qu'il chercha, ce fut sa propre excellence. Oui. Il a désiré sa perfection, mais de façon démesurée. Il a voulu une perfection qui n'était pas pour lui. Bon. Et la désobéissance n'a été que la suite de l'orgueil. C'est une conséquence de l'orgueil. Et ça, c'est vrai, ça. Toute désobéissance est une conséquence de l'orgueil. Si nous désobéissons, ce qui peut arriver aux enfants comme aux grandes personnes, hélas, si nous désobéissons, eh bien, c'est parce que nous prétendons avoir raison contre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous a donné un précepte. Et on désobéit parce que, non, moi, je sais mieux que lui ce que je dois faire. Donc, c'est l'orgueil. Oui. La cause de la désobéissance, c'est l'orgueil. L'homme enflé d'orgueil, dit saint Augustin, céda aux suggestions du serpent et méprisa les ordres de Dieu. Alors sans doute il y a eu une partie de désobéissance. Également peut-être, saint Thomas l'admet, comme une part de gourmandise. Peut-être, certaines gourmandises. Bon, parfois. Mais qui est la conséquence, ouais. La gourmandise n'est entrée qu'après la rupture de l'ordre. Ouais. C'est quand Ève a cédé à l'orgueil, eh bien, que la gourmandise a pu rentrer, prendre place. Ouais. Alors en quoi a consisté plus précisément ce péché d'orgueil, et sur quoi a-t-il porté? Eh bien sur deux choses, semble-t-il. Qu'est-ce que l'homme a désiré dans ce péché d'orgueil? Ressembler à Dieu, bien sûr, mais non pas devenir l'égal de Dieu, non pas, vous voyez, devenir Dieu. Alors quand même Adam avait une science telle qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas devenir Dieu. Mais quelle était cette égalité qu'il voulait conquérir avec Dieu? Bien, c'était justement l'égalité dans la science du bien et du mal. Oui, avoir la même science que Dieu. Bien que n'étant pas de même nature que lui, d'une nature inférieure, eh bien avoir quand même la science du bien et du mal. Oui. Il voulait, sous les déterminer, devenir lui-même un petit peu le maître de ce qui est bien et de ce qui est mal. Déterminer de sa propre nature ce qui est bon à faire ou mauvais à éviter. Voilà. Donc, je voulais un petit peu s'approprier la science qui n'appartient, la connaissance qui n'appartient qu'à Dieu. Et il est sûr que c'est de l'orgueil, ça. Ouais. Également, deuxième bien, sans doute, qu'il a désiré par ce péché d'orgueil, eh bien, ressembler à Dieu, mais non plus, alors cette fois, dans le domaine de la science, mais dans le domaine de l'indépendance. Ouais. Le désir d'acquérir sa béatitude par ses propres forces. Oui. Ne pas dépendre de Dieu pour être heureux. Et ça, mais ça. Ça a été déjà le péché des anges, le premier péché des anges, oui, le péché originel des anges, si l'on veut. Et c'est aussi un des aspects du péché d'orgueil d'Adam et Ève. Oui. Conquérir le pouvoir d'obtenir la béatitude par lui-même. En s'appuyant sur ses seules forces, ne pas recevoir de Dieu sa béatitude. Et un petit peu, un exemple que j'avais déjà pris une fois ou l'autre et qui me paraît quand même. Bon, c'est une analogie, bien sûr, un petit peu la Terre qui tourne très bien avec le Soleil qui la chauffe, qui a fait germer des tas de choses, hein, depuis des milliers d'années, puis un beau jour, la Terre dit tiens, ben c'est pas mal, finalement, je suis bien, moi, comme ça. Et bien maintenant, mon cher petit Soleil, je n'ai plus besoin de toi. Voilà, alors tu coupes, tu arrêtes. Et je vais me débrouiller sans toi. Voilà. Et je vais continuer à vivre, je vais continuer à faire croître des arbres, des plantes et tout ça, mais sans toi. Je n'ai plus besoin de toi, hein, pour être heureux. Bon, alors le soleil s'éteint. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la catastrophe. Mais c'est un petit peu ça, oui. Voilà. Adam et Ève, qui sont dotés de tout un tas de richesses, de bienfaits, et qui veulent en jouir tout seuls. Qui veulent en jouir, en devenir les uniques propriétaires, vous voyez, et devenir donc les maîtres dans leur petit paradis. Le bon Dieu, merci bon Dieu, mais voilà, c'est fini maintenant, on n'a plus besoin de vous. C'est grave quand même comme péché. Ouais. Même si la chose en soi n'est pas gravissime, ouais, manger un fruit en soi, c'est pas gravissime, mais quant à ce qu'il y avait derrière, les intentions qui étaient derrière, il est sûr que c'est un péché qui est gravissime. Ouais. Alors, oui, nous disions, est-ce que ce péché a été le plus grave de tous les péchés? Eh bien non, bien sûr, en soi. Ce n'est pas le péché le plus grave qui ait pu, qu'un homme puisse commettre, vous voyez, mais c'est le péché le plus grave en raison de la condition d'Adam et cette condition de perfection. et qui a donné à ce péché toute sa gravité, Adam étant le chef de l'humanité, la tête de l'humanité, étant donc dans cet état de perfection, bien le plus petit péché prenait chez lui une dimension démesurée. Adam ne pouvait pas commettre un péché véniel. C'était pas possible, ça. Il ne pouvait pas commettre un péché véniel. Ouais. Le seul péché qu'il pouvait commettre était nécessairement un péché mortel. Et de par sa perfection, de par la science qu'il avait, il ne pouvait pas se tromper. Il ne pouvait pas faire erreur. Adam ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Il savait très bien ce qu'il faisait. Terrible, ça. Terrible. Et Ève aussi, il le savait très bien aussi. Ils le savaient tous les deux. Ils ont péché tous les deux, ensemble. Alors, il y a une autre question que l'on peut encore peut-être se poser. Ça, je sais bien, ça risque de ne pas plaire aux dames. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? C'est saint Thomas d'Aquin qui se pose aussi la question. Entre les deux, qui a péché le plus ? Entre Adam et Ève. Eh oui, qui a commis la faute la plus grave ? Eh bien, mesdames, que cela vous rassure, c'est Adam qui a commis la faute la plus grave, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il est le chef. Il est le chef. C'est de lui que Ève est sortie. Il est le chef. C'est de lui que tout est sorti. Et il est sûr que la faute qu'il a commise en tant que telle est plus grave que celle d'Ève en raison de sa condition. Mais, Ève a commis quand même plus de péchés qu'Adam. Et oui, d'une certaine façon, Ève a commis également un péché plus gravement qu'Ève. Tous les deux ont commis un péché d'orgueil. Là-dessus, il y a égalité. Bon, péché d'orgueil. Mais dans l'ensemble, Ève a été plus coupable. Et pourquoi ? Bien parce que non seulement elle a péché, mais elle a fait pécher son mari. Et ça, c'est pas bien. Et oui, il ne faut pas entraîner son mari, il ne faut pas entraîner celui que l'on aime dans le mal. Et c'est une autre faute, c'est un autre péché. Et elle l'a fait délibérément, volontairement. Elle est venue voir Adam, voilà, tiens, goûte un peu de ce fruit, c'est délicieux, etc. Elle prit de son fruit et en mangea. Bon, voilà le péché d'Ève. Bon, qui est grave, c'est un péché d'orgueil, elle a commis son péché. Mais ensuite, que fait-elle ? Elle en donne aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Eh oui. Les auteurs mettent aussi peut-être un peu dans les péchés des péchés annexes, vous voulez, de Ève, une certaine curiosité. Mais on ne fait pas la causette avec un serpent, qu'est-ce que vous voulez ? Peut-être a-t-elle été un petit peu intriguée, tu vois, c'est curieux. Un serpent qui parle, qu'est-ce qu'il me raconte ? Curiosité. Méfiez-vous de la curiosité, mesdames. Si un jour un serpent vient vous parler, ne l'écoutez pas. Bon, voilà. C'est un petit peu de curiosité. Et puis chez Adam, un autre défaut, un autre péché, oui, quand même. Bon, c'est une sorte de complaisance excessive envers son épouse. Et il a voulu lui faire plaisir. Il n'a pas voulu se fâcher avec elle, oui, lui faire de la peine, on peut quand même, quoi. Et ce qu'il va dire à Dieu après, je dis, je ne veux pas retirer toute la faute à ce pauvre Adam, il dit, mais c'est la femme que vous m'avez donnée. Bon, une sorte de il a fait trop confiance à sa femme, ouais. Un peu trop, il a voulu lui faire plaisir, complaisance un peu excessive. Messieurs, attention, soyez bons avec vos épouses, mais voilà, attention, quand même, méfiez-vous peut-être un petit peu. Soyez prudents, simplement. Ne leur accordez pas, ne cédez pas à tous leurs caprices. Oui. Même pour leur faire plaisir. Bon, eh oui, qu'est-ce que... Voilà quel a été ce péché. Je dirais un événement malheureusement très simple. Très simple et qui s'est déroulé comme ça en une fraction de seconde. Oui. Trois fois rien, oui. C'est invraisemblable, vraiment, ça fait frémir quand on pense, vous voyez, un petit peu cette liberté. C'est tout le drame de la liberté. Tout le drame de la liberté. Dieu voulait, encore une fois, attirer Adam et Ève dans son paradis, dans sa gloire, mais il voulait qu'ils l'obtiennent par un acte personnel. Ouais. Il voulait, si vous voulez, c'était un honneur qu'il voulait faire à Adam et Ève, eh bien, de ne pas les prendre de force dans son paradis, mais que ce paradis, ce bonheur, eh bien, ils le méritent, ils l'obtiennent d'eux-mêmes. Ouais. Voilà, je vous le donne, mais dites-moi oui, simplement. Et puis voilà que c'est un nom qui vient. C'est épouvantable. Et le père de Chivray, je me rappelle, une fois, il faisait une conférence là-dessus, un petit peu, et il évoquait justement, je dirais, ce drame, le drame que ça a été ensuite, après la faute, pour Ève notamment, et quand elle a compris ce qui s'était passé, et elle a vu un petit peu, je dirais, toute l'histoire de l'humanité qui allait se dérouler après elle, et tous ses péchés, et toutes ses misères, et toutes ses damnations, Et Ève partant en hurlant de douleur un petit peu, de peine, de chagrin, pas possible, toutes ces damnations à cause de moi. Et c'est vrai, c'était un drame pour eux aussi après, quand ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait. Terrible ça, terrible. Mais rassurez-vous, ils se sont convertis. Dieu leur a pardonné quand même. Mais c'était quand même quelque chose de très, très, de très terrible, catastrophique pour eux. Et quelle a été la conséquence immédiate? Eh bien, pour Adam et Ève, bien sûr, eh bien, c'était la perte. La perte de tous ces dons gratuits que Dieu leur avait donnés. La perte de la grâce, d'abord. Ça y est, péché mortel, donc on perd la grâce. Et avec la grâce, ils ont perdu tous ces dons préternaturels. Ce don d'impassibilité, d'immortalité, d'intégrité, de science, c'est fini. Tout ça, Dieu le leur a retiré. Il le leur a retiré parce qu'ils ont perdu la grâce. Ils se sont retirés de l'amitié, de l'obéissance à Dieu, de la soumission. Et voilà. Donc ils ont perdu tout ce qui accompagnait leur état d'innocence, leur état primitif. Et même, justement, ce pouvoir, bien, puisqu'ils vont être chassés du paradis, de prendre encore de l'arbre de vie. Ils pouvaient prendre de l'arbre de vie. Et les auteurs, bien, admettent que cet arbre de vie, c'était celui qui alimentait un peu leur immortalité, leur impassibilité. C'est eux qui auraient maintenu leur corps, oui, peut-être bien dans un état de jeunesse, oui, qui les empêchait de vieillir. Ils ne devaient pas vieillir. Formidable, ça. Eh oui. Ils pouvaient en manger tant qu'ils voulaient. Cet arbre-là leur était permis, mais pas l'autre. Oui. Et donc, ils ont été chassés du paradis de volupté, et Dieu plaça à l'entrée un chérubin qui tenait un glaive flamboyant. Voilà, c'est fini. Paradis terrestre fermé pour toujours. Oui. Il y aura un autre paradis, mais qui ne sera plus le paradis terrestre. Et puis, deuxième punition, non seulement ils sont chassés du paradis terrestre, mais ce sont des punitions en eux-mêmes, dans leur corps et dans leur âme. Ces punitions que la Bible expose, c'est tout ce que Dieu dit. Ensuite, punition dans leur corps, douleur de l'enfantement pour la mère, soumission à l'homme, qui est une conséquence du péché. Eh oui, puisque la femme a fait pécher l'homme, et bien maintenant, elle doit être soumise à l'homme. Voilà. Travail pour l'homme. Ah ben, il travaille à la sueur de son front, alors qu'avant, ben, ma foi, le travail se faisait sans fatigue, sans peine. Oui. C'était un délassement pour l'homme d'aller se promener dans le jardin, de cueillir des fruits, je sais pas quoi, etc. Ça se faisait facilement, sans aucune difficulté. Et bien maintenant, c'est fini. Travail à la sueur du front. Et puis, stérilité de la terre, même la terre qui se révolte, comme l'homme. Puisque l'homme ne s'est pas soumis à Dieu, et bien la création non plus ne se soumet plus à l'homme. Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Le sol est maudit à cause de toi. C'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe des champs. Bon, vous voyez donc, difficulté dans le travail, alors qu'avant, bien, tout se passait avec facilité. Donc, toutes ces peines corporelles, qui font partie de la vie physique, et puis également des peines de l'âme. L'âme qui, je dirais, avec la perte de la grâce et la perte de tous ses dons, et puis c'est ce remords, certainement, qui a dû tenailler l'âme d'Adam et Ève bien jusqu'à la fin de leur vie. Voilà un petit peu ce qu'a été ce péché d'Adam et Ève. Alors on pourrait bien sûr se demander, et saint Thomas le fait, mais enfin est-ce que quand même c'était bien nécessaire ça, cette tentation? Est-ce que vraiment le bon Dieu ne pouvait pas éviter cette tentation quoi? Et oui, et c'était une question qu'on me posait la dernière fois, je crois, mais enfin, puisque Dieu sait tout, il savait très bien comment ça finirait. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas pu se dispenser et bien de soumettre Adam et Ève à cette tentation? Oui, bien sûr, il aurait pu, mais dans ce sens-là, ça va être un petit peu compliqué. Enfin, accrochez-vous. Dieu sait tout, bien sûr, mais Dieu, ne vit pas dans un monde imaginaire. Dieu n'est pas là en train de se dire dans son éternité, alors si je fais ça, Adam va faire ça, donc je ne le fais pas. Non, pas comme ça que ça marche. Dieu sait bien sûr ce qui arrivera, mais il sait que ça arrivera parce que ça arrivera. Une chose qui n'arrive pas, une chose qui n'est pas réelle. Bon, Dieu le connaît peut-être dans l'ordre des possibles, mais pas dans l'ordre du réel. Et donc, vous voyez, si Adam et Ève n'avaient pas désobéi, bien sûr, bien Dieu n'aurait pas su qu'Adam et Ève désobéiraient, si vous voulez. Dieu savait de toute éternité ce qui allait se passer, mais parce que ça se déroulerait comme cela. Oui. Et donc, s'il n'avait pas tenté, s'il n'avait pas permis plutôt que le serpent vienne tenter Adam et Ève, eh bien, Dieu serait resté dans une certaine ignorance, oui, de la faute d'Adam et Ève. Ce serait resté dans l'ordre des possibles. Il serait possible qu'Adam et Ève me désobéissent. Oui. Et non, Dieu ne vit pas dans le possible, Dieu vit dans le réel. Oui. Et puis d'autre part, c'était bien sûr, Dieu le savait, mais c'était, hein, nous l'avons dit un petit peu, c'est ce qui fait le privilège de l'homme, qui fait également sa misère, hein. C'est cette liberté, c'est le plus grand privilège de l'homme, c'est ce qui fait sa grande dignité, ce qui fait sa beauté, sa supériorité sur tous les autres êtres, c'est cette liberté. Et cette liberté, eh bien, voilà, qui comporte en elle-même, bien sûr, la possibilité de défaillir, mais qui n'a pas été donnée à l'homme pour se tromper. La liberté n'a pas été donnée à l'homme pour faire le mal. La liberté a été donnée à l'homme pour faire le bien de lui-même. Vous voyez, volontairement, spontanément, voilà, librement. C'est ça la grandeur de l'homme. Toute la grandeur de l'homme, eh bien, c'est devant un bien. Un bien qui est peut-être difficile, qui est ardu, qui lui coûte, eh bien de dire oui, voilà, je le veux ce bien-là. C'est ça la grandeur de l'homme. Ouais. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la liberté. Si l'homme n'a pas la liberté, ben, il fera le bien sans aucun mérite. Elle sera dans sa nature, comme les animaux. Les animaux n'ont aucun mérite de faire tout ce qu'ils font. Aucun, ils n'ont pas de liberté. Ouais. Et voilà. Et c'est ce qui fait la grandeur, la noblesse de l'homme, et qui peut être, bien sûr, hein, si le démon de l'orgueil s'installe, peut être au contraire à la source de sa plus grande déchéance. Et cette liberté, ben, il fallait bien qu'elle s'exerce. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il fallait bien qu'elle s'exerce un jour ou l'autre. Ouais. Ouais, il fallait que Dieu propose à l'homme d'user de sa liberté. Voilà. En lui donnant la grâce, en lui donnant tout ce qu'il fallait pour qu'il en use bien. Et il avait tout ce qu'il fallait pour en user bien. Et tous ces dons qu'il avait, c'était extraordinaire. On ne comprend pas à la limite, mais comment il a pu se tromper, quoi. Il ne s'est pas trompé. Et voilà le problème. C'est qu'il ne s'est pas trompé. C'est qu'il y a la malice, hein, qui s'est introduite dans son esprit. Ouais. Séduction de l'intelligence. Ouais. Ce désir désordonné, hein, du bien. Et d'un bien, comme nous disons, d'un bien qui n'est pas à la mesure de l'homme. Hein. C'est là sans doute, hein, le grand désordre, le grand péché de tout homme, d'ailleurs, c'est cette volonté d'indépendance. Nous n'aimons pas dépendre d'un autre. C'est ça. Ça brise, justement, ça brime notre orgueil, notre amour propre. Vous voyez, en dépendre de quelqu'un, mais enfin, quand même. Je suis maître de moi comme de l'univers. Je le suis, je veux l'être. Victor Hugo, je veux voir. Et affreux, ça. Mais oui, l'orgueil de l'homme qui veut être maître de lui, voyez, et qui ne veut pas se soumettre, qui ne veut pas dépendre de quelqu'un. Et ça, c'est le péché de tous les hommes. Vous savez, ne faites aucune illusion. Regardez tous vos péchés, regardons tous nos péchés. Et regardons bien au fond, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi bien si au fond, il n'y a pas toujours de l'orgueil. Quel que soit le péché, un péché de gourmandise, un péché de sensualité, un péché de colère, un péché de mensonge, un péché... Qu'est-ce qu'il y a à la racine? Mon petit moi, 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 voilà. Mon petit bonheur à moi, selon mes petites recettes à moi. Voilà. Et puis les autres, ils m'embêtent. Donc, voilà. Et puis le bon Dieu, je l'aime bien, mais le dimanche, hein, le résultat, bon, qu'il me laisse tranquille. Bon, enfin, je caricature un petit peu, mais bon, voilà. Voilà, c'est ce péché originant, donc le péché qu'ont commis Adam et Ève. Alors ensuite, il y a ce péché qui s'est transmis. Oui, qui s'est transmis. Qu'on appelle le péché originé. Alors ça, c'est de foi, ça. Hein. Faites très, très attention à cela. Bon, vous croyez, j'espère, quand même. Mais qu'est-ce qui est de foi, justement, dans cette question du péché transmis? Il faut être très... Nous allons être assez précis, voir un petit peu ce que l'Église a défini là-dessus. Eh bien, c'est qu'il existe donc un péché véritable, hein, qui s'est transmis par génération. par la voie de la génération active, à tous les hommes. Oui, donc il existe. Tout simplement, je crois que le plus simple, c'est le fait, si vous voulez, cela. Voilà, que le fait que ce péché d'Adam et Ève s'est transmis à tous les hommes. Bon, d'abord, si vous voulez, le fait lui-même. Puis ensuite, eh bien, nous essayons de voir comment a pu se faire cette transmission. Alors, que dit l'Église ? Quelques textes que nous avions commencé déjà à voir la fois précédente. Donc, si quelqu'un affirme que la prévarication d'Adam n'a nuit qu'à lui seul et non pas à sa descendance, et qu'il a perdu la sainteté et la justice reçues de Dieu pour lui seul et non aussi pour nous, etc., etc., ou que, souillé par son péché de désobéissance, il n'a transmis que la mort et les peines du corps à tout le genre humain, mais non pas le péché. Ouais, donc si quelqu'un dit qu'il a transmis les peines, peut-être, mais pas le péché à tout le genre humain, anathémasite. Voilà, hérétique. Celui qui dit que Adam n'a pas transmis un péché, ouais, non seulement les peines ouais, du péché, mais le péché lui-même, ouais, eh bien, anathémasite. Cependant, quand même, c'est intéressant, c'est le Concile de Trente, là, qui parle. Cependant, la chose n'était pas définie, mais enfin, déjà, c'était cru par l'Église, quand même. Cependant, ce Saint Concile déclare qu'il n'a pas l'intention de comprendre dans ce décret relatif au péché originel la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. Ouf. Voilà. Donc, un privilège singulier, comme dira Pie IX dans l'encyclique définissant l'Immaculée Conception, mais à part la Vierge Marie et à part notre Seigneur, bien sûr, mais ça, nous en parlerons aussi, eh bien, tous les hommes ont hérité d'un péché, un péché véritable. Ce péché est transmis ensuite par génération. Et là, c'est comme cela que se transmet le péché, par la génération. Si quelqu'un affirme que le péché d'Adam, qui est un par son origine, et qui transmis à tous par propagation héréditaire. Vous voyez, une propagation héréditaire, c'est donc la génération, l'hérédité. Nous héritons par la voie de les générations d'un péché, etc. Il y a encore un autre texte, là. Ne naîtrait pas dans l'injustice s'il ne naissait de la descendance corporelle d'Adam. Vous voyez, descendance corporelle d'Adam. Descendance qui leur fait contracter par lui, lorsqu'ils sont conçus, l'injustice personnelle. Oui, donc, c'est le fait de la descendance corporelle qui nous fait contracter l'injustice personnelle. Oui, donc, un péché qui nous devient en quelque sorte personnel, qui est vraiment le nôtre, pas seulement le sien. Oui. Et c'est là le mystère, bien sûr. Ce péché, donc, non seulement un péché qui affecte tous les hommes, qui est transmis par la génération, mais un péché qui est propre à chaque homme, qui inhère à chacun de façon personnelle. Si quelqu'un affirme, c'est ce que nous disons là, que le péché d'Adam, qui est un par son origine et qui est transmis à tous par propagation héréditaire, est propre à chacun. Et il est propre à chacun. Le péché originel, il devient propre, particulier à chacun d'entre nous. Ce péché originel, il se trouve chez tous les enfants, même nés de parents chrétiens. Eh oui, il fut une époque où certains croyaient, bien que les parents chrétiens ne transmettaient pas le péché originel. Eh si, et pas parce que les parents sont baptisés et qu'ils n'ont plus eux-mêmes le péché originel, eh bien qu'ils ne transmettent pas le péché originel. Oui. Et c'est une partie du mystère aussi, ça. Bon, puisque je n'ai plus le péché originel, comment est-ce que je peux le transmettre ? Ce n'est pas nous directement qui le transmettons, c'est Adam et Ève, oui, qui le transmettent à travers toute l'humanité. Si quelqu'un nie que les enfants nouveau-nés, même s'ils viennent de parents baptisés, doivent être baptisés, ou s'il dit qu'on les baptise sans doute pour la rémission des péchés, mais qu'ils n'ont rien pris du péché originel d'Adam, qui soit à expier par le bain de la régénération, etc., etc., qu'il soit anathème. Donc, tous les enfants naissent avec le péché originel, même s'ils sont nés de parents chrétiens. Et c'est un vrai péché. Un vrai péché. Pas seulement, comme nous le disions, une peine. Nous n'héritons pas seulement des peines, des conséquences du péché, mais du péché en lui-même. Et ce péché, c'est là le mystère, qu'est-ce que vous voulez. Et ce péché est proprement un péché volontaire. Le péché, c'est quelque chose de volontaire. Si je dis que j'ai un péché, eh bien, cela veut dire que il y a quelque chose de volontaire dans cette chose-là. Et sinon, ce n'est pas un péché. Mais là où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de péché. Et bien évident. Hein. C'est de la maladresse, tout ce que vous voudrez, mais ce n'est pas du péché. Pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait conscience et volontariété. Ouais. Ouais. Et donc, c'est vraiment et proprement volontaire. Ouais. Même chez les enfants, même le tout petit qui vient de naître, eh bien, il y a quelque chose de volontaire dans le péché qui affecte son âme. Mais, c'est là la difficulté, cette volonté n'est pas sa volonté de personne, ce n'est pas une volonté personnelle, mais c'est ce qu'on appellera une volonté de nature, une volonté d'origine. Ouais. C'est un acte de volonté de toute la nature humaine en Adam. Nous essaierons d'expliquer un petit peu tout à l'heure. C'est là la difficulté, bien sûr. Ce n'est pas la volonté personnelle de l'enfant, bien sûr. L'enfant ne peut pas faire un acte personnel de volonté. Alors, quel est cet acte de volonté? Eh bien, c'est une volonté de nature, oui, non pas de personne. Et ce péché originel est à distinguer, bien sûr, de tous les péchés actuels que nous pouvons commettre, hein, que ce soit sous le rapport de la faute ou bien sous le rapport de la peine. D'un péché vraiment tout à fait à part, tout à fait spécial, hein, qu'il faut absolument distinguer de tous les autres péchés qu'a pu commettre Adam lui-même ou que nous pouvons commettre nous-mêmes. Hein. Voilà un petit peu, sous les traits résumés, ce que l'Église enseigne sur le fait, vous voyez, de la transmission du péché. Hein. C'est bien un péché qui est transmis, un péché qui affecte tous les hommes, même par la médiation, la génération, venant de parents chrétiens. Ça ne change rien à la chose. Seule exception, bien sûr, notre Seigneur et la Sainte Vierge Marie. Alors, comment quelle est la source, un petit peu, de cette foi, de ces définitions d'Église? Eh bien, c'est l'Écriture, comme nous l'avons dit, notamment Saint Paul, l'Épître aux Romains, chapitre 5, par un seul homme, le péché est entré, etc., voyez. Et puis, il y a également un argument, je dirais, de tradition, quand même. Il ne faut pas négliger la tradition, avec un grand T. Eh bien, c'est cette tradition qui remonte au début de l'Église, du baptême des petits-enfants. Méfiez-vous, hein, on raconte beaucoup de bêtises actuellement sur cette question du baptême des enfants, à savoir qu'au début, on ne faisait que le baptême des adultes, que le baptême des enfants est venu plus tard. Ce n'est pas vrai. Il est sûr que les premiers baptisés ont été des adultes. Il fallait bien commencer par quelqu'un. On a commencé par les parents. Mais après, ce sont les enfants qui ont été baptisés. Et ça, la tradition du baptême des enfants remonte à l'origine de l'Église, une tradition apostolique. Oui. Et puis, il y a également un autre argument qui s'origine un peu dans la foi de l'Église. La théologie sacramentaire, vous voyez, c'est la question du nombre des sacrements. Il est de foi. Il est de foi, bien qu'il existe un sacrement de baptême. Très bien. Il est également de foi qu'il existe ce qu'on appelle deux sacrements des morts. Qu'est-ce qu'on appelle les sacrements des morts? Attention, ce ne sont pas les sacrements qui font mourir. Ce sont les sacrements qui sortent de la mort, au contraire. Et quels sont les sacrements des morts? Eh bien, c'est le baptême et c'est la pénitence. Voilà, les sacrements qui retirent l'homme de la mort spirituelle. Sacrement de baptême et sacrement de la pénitence. Ceci est de foi. Bon, pas de problème. Or, eh bien, très simple comme raisonnement, vous savez, vous avez peut-être déjà fini avant moi, d'ailleurs. Hein. Or, le sacrement de pénitence, il est de foi que ce sacrement a été institué pour effacer les péchés actuels que nous commettons tous les jours. Alors, à quoi sert le baptême? S'il n'y a pas d'autre péché que le péché actuel, à quoi sert le baptême? S'il y a un baptême, si qu'il doit y avoir un autre péché que ces péchés actuels que nous commettons tous les jours et pour lesquels nous avons le sacrement de pénitence. C'est le péché originel. Et le baptême ne s'explique pas même. Il n'a aucune raison d'être, le baptême, s'il n'y a pas ce péché originel. À quoi ça sert? Pourquoi faire? Rien, oui. Donc il doit y avoir à tout prix, hein, c'est pas qu'on le veuille, mais enfin, c'est comme ça, un autre péché que les péchés actuels. Et nier le péché originel, et pratiquement c'est nier tout l'organisme sacramentaire, dire que tout ça fait mort, mais ça tient pas debout. Hein. Puisque le baptême est même le premier des sacrements qu'il faille recevoir, et si le baptême n'a plus de nécessité, mais alors à quoi sert tout le reste? Ça ne sert plus à rien, tout cela. Il y a bien sûr d'autres arguments que l'on peut trouver à l'appui de l'existence et de ce péché transmis à tous les hommes. Eh bien, c'est l'incarnation du Verbe, l'incarnation de Jésus-Christ. Quelle est la finalité de l'incarnation? C'est clair dans toute l'Écriture. Pourquoi notre Seigneur s'est-il incarné? Il nous le dit. Il nous le dit. Pourquoi faire? Eh bien, pour délivrer les hommes du péché, pour les sortir du péché. C'est là la fin principale de l'incarnation, c'est justement ôter le péché originel qui est une extension universelle. Le péché originel affectant tous les hommes, ouais, il a une extension qui est infiniment plus grande que tous les péchés actuels. Et donc nier le péché originel, eh bien, c'est nier également même la nécessité de l'incarnation. Pourquoi? À quoi ça sert? Pour venir vivre parmi nous? Bon, quand on considère comment ça s'est passé, j'avoue qu'à sa place, moi, je m'en serais dispensé. Hein. Si vraiment il n'y a pas d'autre raison, hein, s'il n'y a pas une raison, justement, plus profonde, de tirer les hommes de leur misère, pourquoi l'incarnation? Et puis également, comme ce dogme aussi, que le Christ est rédempteur de tous les hommes. Il est rédempteur de tous les hommes. C'est pour tous les hommes qu'il est mort sur la croix. Or, quand même, par la grâce de Dieu, mais il arrive qu'il y ait des hommes qui meurent sans avoir péché. Les enfants, par exemple. Les enfants meurent sans péché. L'enfant, avant d'avoir l'âge de raison, ne peut pas pécher. Alors, le Christ n'est pas mort pour lui. Or, le Christ est mort pour tous les hommes, y compris pour ses enfants qui sont morts sans avoir pu commettre de péché. Donc, il devait, ses enfants, bien, ont certainement quelque chose, ouais, en eux, qui nécessite l'incarnation, hein, la présence d'un rédempteur, ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est précisément ce péché originel. Alors il est sûr que ce péché originel, ouais, en tant que transmis à tous les hommes, est un dogme de foi. Ça n'est pas démontrable par la raison. Ne cherchez pas à en faire une démonstration rationnelle et philosophique, c'est impossible. Hein. Il ne faut pas tourner ces choses-là en ridicule, au contraire. Si on veut démontrer ce genre de choses, les gens vont rigoler. Ça ne tient pas debout votre affaire. Ça n'est pas démontrable par la raison. Ce n'est pas contraire à la raison. Mais ce n'est pas non plus démontrable. Tout ce que l'on peut trouver, peut-être, ce sont des arguments de convenance. Ouais, dire aux gens, enfin, regardez un petit peu, quand même. Ouvrez un petit peu les yeux. Bien sûr, ce n'est pas une démonstration, mais si vous regardez un petit peu l'état dans lequel vit l'humanité, vous trouvez que c'est brillant. Hein. Vous trouvez que les hommes sont si beaux que ça. Hein. La vertu, la morale, tout ça, la santé, tout. Vous trouvez comment? Et puis regardez partout où les, aucun homme n'est excepté de tout cela. Chacun a sa part de misère, chacun a sa part de souffrance, d'une façon ou d'une autre. Alors est-ce que quand même ça ne rend pas vraisemblable? Il y a bien quelque chose qui soit commun à tous les hommes. Et ce quelque chose de commun à tous les hommes, comment cela peut-il être commun à tous les hommes si ça ne remonte pas à l'origine? Il n'y a que comme ça qu'on peut l'expliquer, que tous les hommes soient ainsi dans un certain état de dégénérescence, vous voyez, de débilité. Nous sommes tous un peu débiles. Voilà un petit peu donc cette question du péché originé, qui est donc un dogme de foi. Hein. Le péché originant, donc, péché d'Adam et Ève, péché d'orgueil, et puis le fait de la transmission, hein, savoir que tous les hommes naissent avec ce péché. Alors, essayons maintenant un petit peu de voir comment a pu se faire cette transmission. Alors attention, c'est là que ça devient encore plus difficile. Si quelqu'un craque, appeler au secours, hein, avant de succomber. C'est un mystère. Alors, bon, on va essayer de tourner un petit peu autour. Hein, pour le... Si quelqu'un s'endort, c'est pas grave. Ça, c'est... Le tout, c'est de ne pas ronfler, simplement. Bon. Donc, la transmission. Comment a pu se faire cette transmission du péché originel? Et le problème, il est là. Il faudrait faire un petit peu de philosophie, mais je ne veux pas trop vous casser la tête. Vous voyez, c'est toute la question, la distinction qu'il y a entre la nature et la personne. La nature, ouais. Nous avons tous la même nature humaine. Je suis homme, vous êtes homme. Avec un grand H, attention. Bon, homme ou femme, nous sommes tous hommes. Ça, c'est bon. Voilà, nous avons tous la même nature. Et qu'est-ce qui compose une nature humaine? Eh bien, c'est un corps humain et une âme humaine. Voilà. Du fait que nous avons tous un corps et une âme, nous sommes tous participants à la même nature humaine. C'est simple. Parce que là, ça va. Personne ne s'effondre. Bon. Voilà, ça, c'est la question de nature. Voilà, cette nature. Voilà. Bien. Et puis ensuite, il y a la question de la personne. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Eh bien, la personne, c'est ce qui dit « je », c'est « moi ». Voilà. Dans la nature humaine, je suis une personne, vous êtes une personne, chacun d'entre vous est une personne. Nous avons tous la même nature, pas de problème, mais nous sommes chacun une personne distincte d'une autre, dans la même, au sein de la même nature. Et le péché, en tant que tel, strictement, le péché appartient à la personne, c'est un acte de la personne. C'est quand je fais quelque chose, moi, je fais quelque chose de mal, que je commets un péché. Quand moi je fais un péché, c'est pas vous qui commettez le péché, c'est moi. Heureusement. Voilà, chacun commet son péché de son côté. Voilà, c'est la personne qui commet un péché. Parce que la volonté, ce péché, résulte d'un acte de volonté personnelle. Ma volonté à moi n'est pas la vôtre. Vous avez vous aussi une intelligence et une volonté, mais les actes de ma volonté à moi ne sont pas les actes de votre volonté à vous. Voilà, chacun sa volonté, et donc chacun ses péchés. Et voilà où est le mystère. C'est qu'on est obligé, pour expliquer la transmission du péché, on est obligé de parler non plus d'une volonté personnelle, propre à chacun, particulière à chacun, mais d'une volonté de nature. Une sorte d'acte de volonté qui engloberait toute la nature humaine. Alors ce qui n'est pas très, très, très... Philosophiquement, si vous voulez, ça ne tient pas debout. Et il faut bien essayer d'expliquer un petit peu la chose. Puisqu'il y a un fait... Cette transmission d'un péché, oui, comprenez bien que c'est là la difficulté, transmission d'un péché, transmission d'un acte volontaire, donc, oui. Et non pas seulement transmission d'une peine, transmission d'une misère, transmission d'une souffrance, oui. Ça, je dirais, à la limite, c'est facile. Transmettre une tare, et malheureusement, ça se fait par la génération. Bon, les enfants héritent de ce qui appartient à l'ordre physique, oui, bon, ça, même un petit peu à l'ordre spirituel, si on veut, intellectuel, un petit peu, en partie. Bon, ça va bien. Mais ça reste dans le domaine, je dirais, de la nature. Ouais. Ça n'est pas dans l'ordre de la volonté libre et personnelle. Ouais. Dans le domaine, je pense qu'il y a de plus personnel, la volonté. Ouais. Eh bien, il y a pourtant ce fait de la transmission de quelque chose qui affecte la volonté de chacun. Alors, comment l'expliquer? Alors, il y a eu tout un tas d'explications qui ont été tentées. Certaines sont étranges, d'autres plus intelligentes, si l'on peut dire. Ouais. Bon, et celle à laquelle nous rangeons, nous, bien sûr, c'est celle que nous donne saint Thomas d'Aquin et que l'Église, d'ailleurs, reprend plus ou moins à son compte. Ouais. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle l'explication d'une sorte de pacte implicite, vous voyez. Dès la création de l'âme, vous voyez, ça, c'est un certain Honorius d'Autun, un Français, qui disait bien qu'au moment où de la création de l'âme et de son infusion dans le corps, au moment où Dieu crée une âme, eh bien à ce moment-là, l'âme consentirait au péché d'Adam. Alors, bon, c'est un peu étrange, vous voyez, voilà une pauvre âme qui est créée, puis à ce moment-là, eh bien, tiens, oui, je suis d'accord avec Adam. Bon, c'est un petit peu étrange, vous voyez, bon. À ce moment-là, d'ailleurs, vous voyez, ce que dirait la réfutation qu'on peut faire à ce genre d'explication, c'est qu'à ce moment-là, ce n'est plus un péché originel. Et non, c'est un péché actuel de l'âme. Vous voyez, c'est l'âme qui, elle-même, commet le péché. Elle acquiesce, elle adhère au péché d'Adam. Vous voyez, donc, elle commet le péché elle-même. Donc, c'est plus le péché n'est plus transmis. Vous voyez, donc, c'est donc plus un péché originel, c'est un péché actuel de l'âme. Bon, enfin. Ou bien d'autres, ce sont plus des Français, ce sont plutôt des germaniques, cela. Le péché, lui, n'est plus imputé à l'homme au moment de la création de l'âme, mais à l'âge de la raison. Voilà. Au moment où l'enfant a atteint l'âge de raison, eh bien, il consent au péché d'Adam, et il s'approprie sa faute. Voilà. Donc, le péché originel, finalement, mais il ne l'aurait qu'au moment de l'âge de raison. Bon, alors pourquoi le baptême des enfants? Ça ne sert à rien. Hein. Et puis là également, ce péché, à ce moment, n'est plus héréditaire. Ouais, ce n'est plus un péché héréditaire. Il n'est plus transmis. C'est un péché actuel. Bon. ou d'autres encore, vous voyez, par une sorte de fiction juridique, une sorte de pacte, vous voyez, pacte explicite entre Dieu et Adam. Oui, une sorte de pacte un petit peu entre Dieu et Adam. Dieu a fait d'Adam la tête morale de toute l'humanité, en sorte que, oui, étant la tête morale de toute l'humanité, sorte de pacte, eh bien, il pouvait transmettre à sa descendance soit la justice originelle, soit le péché originel. Et donc, vous voyez, la volonté de tous les hommes, votre volonté, ma volonté à moi, était comme inclus juridiquement, hein, dans la volonté d'Adam. Et donc, si vous voulez, nous aurions péché en Adam par une sorte de procuration. Oui, voilà, par procuration. Adam a péché en notre nom à tous. Bon. Alors ça, c'est, il y a pas plus de gens qui ont soutenu cette explication, sorte de pacte juridique. Voyez. Et alors, à ce moment-là, vous voyez, la réfutation que l'on peut donner, eh bien, c'est que ce péché n'est plus quelque chose vraiment de la volonté. Vous voyez. C'est quelque chose qui est imputé de l'extérieur. Vous voyez. Est-ce que nous péchons par procuration? Donc, Adam pêche en notre nom, et moi, je reçois ce péché, mais de façon un petit peu extrinsèque, vous voyez, à cause de ce pacte, qui n'est pas quelque chose de moi, hein, qui n'est pas quelque chose de ma nature, de ma personne. Vous voyez. Alors que non, tout homme naît pécheur. Tout homme naît pécheur et c'est quelque chose d'intrinsèque à l'homme, hein, quelque chose de moi, ça. Alors, vous voyez, d'autres explications qui, elles, se tiennent plutôt du côté de la nature. Vous voyez, alors, ce que nous avons vu jusqu'ici se tenait plutôt de la personne, vous voyez, une sorte de consentement personnel ou de procuration. Bon, alors maintenant, d'autres explications qui se tiennent plutôt du côté de la nature, et notamment cette erreur qui a été assez, qui était celle d'une catégorie d'Arméniens, qu'on appelle le traducianisme. Vous connaissez peut-être un petit peu ce nom-là, enfin, bon, on en parle quelques fois, qui admettait simplement que le péché originel se transmettait par la transmission de l'âme. C'était rigolo, ça, vous voyez, c'est que les parents, eh bien, transmettaient à leurs enfants une partie de leur âme, un petit bout de leur âme, ouais. Alors évidemment, là c'est facile, à ce moment-là, c'est sûr que si on transmet l'âme à l'enfant, bon, ben, le péché peut se transmettre avec, c'est, puisque le péché est quelque chose de l'âme, ouais. Ce qu'on appelle le traducianisme, ouais, on transmet l'âme. Eh bien non, ça ne tient pas, ça, hein, car les parents ne transmettent pas l'âme. Mais non, l'âme est créée directement par Dieu, c'est Dieu qui intervient à chaque fois pour créer une âme et l'infuser dans un corps, hein. Et cette erreur a été condamnée d'ailleurs, hein, par Benoît XII, un des maîtres des Arméniens du nom de Mékhitrise, a introduit de nouveau l'enseignement que l'âme humaine de l'enfant est propagée à partir de l'âme de son père, comme le corps à partir du corps, etc. Parce que l'âme humaine, etc. Bon, donc ça, traducianisme, transmission de l'âme. Alors, si ce n'est pas par la transmission de l'âme, eh bien, c'est par la transmission de la chair. C'est pas l'âme, donc c'est la chair. Or là, tout un tas de bon, première sorte d'explications sur laquelle je passe, hein, à savoir que, eh bien, le péché originel serait transmis simplement, hein, par la semence. Oui. Ça tient pas tout à fait debout, hein, bien sûr. Ou bien par loi d'hérédité. Alors, c'est déjà un peu plus juste, si l'on peut dire, oui. Loi d'hérédité, oui. De même que les parents transmettent à leurs enfants, hein, nous en parlions tout à l'heure, là, de même que les parents transmettent un petit peu de leurs défauts, de leurs qualités aussi, quand même, un petit peu de quelque chose d'eux, oui. Et bien ainsi, les enfants hériteraient de quelque chose qui appartient un petit peu à l'âme de leurs parents. Alors ce n'est pas entièrement, c'est pas complètement faux, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas, notamment, eh bien, la raison de faute dans ce péché. Vous voyez, ça pourrait expliquer la raison de peine, mais que nous héritions, bon, voilà, un petit peu des conséquences du péché, mais ça n'explique pas la faute, voyez, la transmission de la faute, parce que ça exclut encore le volontaire. L'hérédité n'a rien de volontaire, si vous voulez. On hérite de quelque chose sans qu'il y ait quoi que ce soit de volontaire. Alors l'explication, eh bien, qui semble la plus proche de la vérité, mais qui reste encore un petit peu mystérieuse, eh bien, C'est celle que nous donne saint Thomas d'Aquin et que je vais essayer de vous expliquer. C'est assez simple, je crois. Voici ce qu'il dit. Tous les hommes qui naissent d'Adam peuvent être considérés comme un seul homme, en tant qu'ils reçoivent de leur premier père la même nature. Vous voyez, donc il fait une sorte de il a fait une analogie un petit peu, vous voyez, entre la société et même le corps humain. Oui. Toute l'humanité est à considérer donc un peu comme un seul homme. Ne voyons-nous pas que dans l'état social, tous les membres d'une communauté sont réputés un seul corps et une seule personne. Dans l'Église, par exemple, on parlera du corps mystique, ou même dans la société, on parlera d'un corps social, des corps constitués, je ne sais pas quoi, donc une sorte d'analogie un petit peu. Oui. Et tous les hommes sont dans Adam comme les membres d'un seul corps. Et c'est là un petit peu le point de départ, l'analogie que prend saint Thomas d'Aquin. Oui. Donc nous considérons tous les hommes comme étant un petit peu membres du corps d'Adam. Or, l'acte d'un membre, par exemple, l'acte de la main est volontaire de la volonté de l'âme qui est son moteur, et non pas de la volonté de la main elle-même. Ma main n'a pas de volonté. Mais lorsque je pêche avec ma main, par exemple, eh bien, ce péché, je l'attribue un peu à la main. Vous voyez, elle participe un peu à la volonté, à ma volonté à moi. Vous voyez. Bon, ma main n'est pas totalement innocente du péché que je commets. Mais je dirais un des signes de cela, eh bien, c'est une tradition un peu étrange, un peu barbare peut-être, mais enfin bon, dans certaines régions où on coupe la main des voleurs. Quelqu'un qui a volé, on lui coupe la main. Ouais, parce qu'on considère que la main, elle est en quelque sorte coupable. Ouais. C'est pas seulement l'homme qui est coupable, mais c'est également le membre qui a servi au péché. Le membre a péché également. Ouais. Pas de la même façon, bien sûr, mais la volontarité, si vous voulez, dérive de mon âme dans le membre dont je me sers pour pécher. Oui. Et bien, semblablement, le désordre qui se trouve dans tel homme issu d'Adam est volontaire, non pas de la volonté même de cet homme, non pas de ma volonté à moi, mais de la volonté de ce premier père qui meut. Une sorte d'action motrice, si l'on peut dire, sur toute l'humanité, qui est exercée par Adam. Par voie de génération. Vous voyez, c'est la génération qui transmet en quelque sorte, vous voyez, cette motion pécamineuse d'Adam. Et cette motion pécheresse d'Adam se transmet ainsi dans l'âme de chaque homme par la voie de la génération active. Et la volontarité d'Adam ainsi dérive dans chacune de nos âmes par la voie, par ce lien physique de la génération. Et de là, ces dénominations de péché originel pour désigner le péché qui passe du premier homme à ses descendants. Et de péché actuel pour marquer le péché qui passe de la volonté de l'âme aux membres du corps. Oui. Bon. Voilà un petit peu l'explication, je dirais, celle qui paraît la plus rationnelle, la plus satisfaisante, tout en étant malgré tout incomplète. Oui. Parce que ça reste un petit peu un mystère. Hein. Même, je dirais, dans notre, vous voyez, cet exemple de la main, du corps, du membre, bon, malgré tout, le péché de ma main, bon, c'est un péché un petit peu diminué, un petit peu dérivé. Le péché proprement, à proprement parler, il est dans mon âme. C'est moi qui pêche, c'est mon âme, c'est ma volonté qui pêche. C'est pas la main directement qui pêcheresse. Oui. Alors, il y a une dérivation, comme une sorte de complicité, oui, qui se fait entre l'âme et le corps, et chacun des membres du corps. Eh bien, c'est un petit peu cette même dérivation, même complicité, si l'on veut, hein, que saint Thomas d'Aquin voit entre Adam et chacun des fils d'Adam. Et cette communication qui est réelle, c'est vrai, communication physique, qui s'opère par la voie de la génération, puisque nous descendons tous d'Adam. Il n'y a pas un seul homme ici-bas qui ne descende pas d'Adam. Oui. Eh bien, il y a cette sorte de lien physique, oui, par lequel se fait une certaine motion, une certaine transmission, oui, pécheresse, oui, sorte l'action mauvaise d'Adam retentit un petit peu dans toute l'humanité, oui, par le lien de la génération. Une sorte d'ébranlement, oui, qui se transmet comme ça, de génération en génération, et qui fait, eh bien que, pouf, voilà, le péché affecte notre âme dès le moment de sa génération, dès le moment de sa création plutôt. Voilà l'explication que l'on peut donner, qui reste malgré tout un certain mystère. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Il faut savoir de temps en temps, je ne comprends plus. Alors, quand on ne comprend plus, on s'arrête. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est un dogme de foi. En tout cas, nous ne pouvons pas douter de la réalité de ce péché originel. Et c'est un péché. Et c'est cela, je dirais, qui est peut-être le plus difficile à comprendre et à admettre, c'est que ce soit un péché. Ce n'est pas seulement une peine. Ça fait 10 fois que je le répète, mais je le répète encore 2 ou 3 fois au moins. Vous voyez. Ce n'est pas seulement une peine. Nous n'héritons pas seulement de la pénitence, vous voyez, du péché, mais nous héritons du péché. Nous naissons pécheurs. Et le jour où je suis né, j'étais pécheur. Le jour où j'étais conçu, j'étais pécheur. Dans le sein de ma mère, j'étais un pécheur. Alors que je n'avais rien fait, moi. Et sinon, justement, eh bien, recevoir cette sorte d'électrochoc, si on peut dire, vous voyez, transmis par Adam à toute l'humanité, qui souille mon âme au moment de son infusion dans le corps. Ouais. Et l'infection se fait, bien sûr, par la voie de la génération, c'est par la voie, ouais, de ce qu'il y a de physique que ça fait. C'est la nature qui est infectée et qui, au moment où l'âme est infusée dans la nature, eh bien, la nature infecte à ce moment-là l'âme. L'âme est souillée au moment où elle est unie à une nature humaine. Ouais. Voilà ce que l'on peut dire, on pourrait dire encore beaucoup de choses sans doute, mais enfin, il ne faut pas trop vous casser la tête quand même. C'est déjà difficile tout ça, pour moi aussi bien que pour vous. Ça, Et sur cette question du péché originel, j'aimerais quand même vous laisser avec des réflexions un peu plus belles, disons, ou plus propices à la méditation. Vous voyez, bon, bien sûr, il faut croire à la réalité de ce péché, le péché d'Adam, le fait de la transmission, après le comment de la transmission, l'Église en a parlé, on pourrait peut-être, si je le retrouve, mais je ne le retrouve pas, donc c'est pas la peine de nous casser la tête. Allez. Non, j'ai quelques textes là d'auteur spirituel, cette question du péché originel, justement. Et c'est ce drame qui a été le péché originel. Il parle de Dieu, c'est le père Liberman qui parle de cela, tout simplement. Dieu qui voulait être lui-même notre vie et notre bonheur, et qui nous a mis dans l'incapacité de trouver notre bien-être en nous-mêmes, afin que nous fussions obligés de le chercher en lui seul, et d'être par là dans sa continuelle dépendance. Et c'est là toute la sagesse de l'homme. L'homme sage, il aime vivre dans la dépendance de Dieu, parce qu'il sait que Dieu est l'auteur de tout bien. Alors, pourquoi vouloir échapper à la dépendance de Dieu? Plus je serai dépendant de Dieu, plus j'en recevrai du bien. Alors, il ne faut surtout pas vouloir s'échapper, certainement pas.
Dieu, ayant créé l'homme de cette manière, l'unit à lui dès le premier moment de sa création. Et rien n'était plus facile à l'homme que de rester dans cette union et cette parfaite dépendance de son Dieu pour recevoir ses dons divins et ses saintes communications. Tout le portait à rester ainsi uni et soumis à Dieu dans toute l'étendue de son être, parce que tout son être en jouissait. Tout en lui tendait vers Dieu et rien ne l'en détournait. Et dans cet état, l'homme se trouvait dans une parfaite dépendance de Dieu. Il est grand, riche, heureux. Mais sa grandeur, sa richesse et son bonheur ne lui viennent pas de sa propre source. Il n'en est pas le principe et par conséquent, il n'en est pas parfait possesseur. Il les tient de Dieu, il les trouve en Dieu. Et il est obligé d'être sans cesse comme un esclave devant Dieu pour recevoir ses dons par sa miséricorde. Car l'homme n'est rien par lui-même, il n'a rien et ne peut rien. Dieu est tout en lui. Et c'est ce qui a donné lieu à la tentation et fait notre malheur. Nos premiers parents, ayant joui de ce premier bonheur, se sont laissés tromper et ont quitté la fontaine d'eau vive pour chercher à se satisfaire dans leur citerne vide et brisée. Il ne leur manquait rien sinon l'indépendance. Il ne leur manquait rien, une seule chose, il leur manquait l'indépendance. Mais si on réfléchit bien, c'est la seule chose que Dieu ne pouvait pas leur donner. Comment voulez-vous que Dieu donne à sa créature, eh bien, de n'être pas sa créature? C'est impossible. Et la créature est toujours dans la dépendance de son créateur. Qu'est-ce que vous voulez faire, ça? Et ça, c'est métaphysiquement, c'est impossible. C'est impossible. Si je fais quelque chose, eh bien, la chose que j'ai faite, elle dépend de moi. Et si je ne la fais plus, ben la chose n'existe plus. Eh bien, la créature par rapport au créateur, c'est cela. La créature est nécessairement dépendante du créateur. Et Dieu ne peut pas, c'est une des choses que Dieu ne peut pas faire. Pourtant, Dieu est tout puissant, il peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas faire, eh bien, que sa créature ne dépend pas de lui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sinon, c'est créature et créateur, ça ne veut plus rien dire. La créature dépend entièrement de Dieu, parce qu'elle est l'effet de Dieu. Eh bien, Adam, il avait tout, tout. C'est extraordinaire. On a du mal à réaliser ce qu'était cet état d'Adam et Ève. Il y a tout, sauf l'indépendance. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est ça qu'il a voulu avoir. Il a voulu devenir l'égal de Dieu, justement, en ne dépendant de plus personne que de lui-même, comme Dieu. Dieu ne dépend de personne. Eh bien, Adam voulait être comme Dieu. Il ne leur manquait rien, sinon l'indépendance. Et c'est par là, bien sûr, que l'ennemi les a tentés. Eh tiens. Voilà qui les attendait. Vous serez des dieux. Vous serez comme des dieux. Vous serez des dieux. C'est-à-dire, cette excellence, ces richesses et ce bonheur que vous tenez de Dieu seul, eh bien, vous pourriez les avoir en vous-même et inhérent à votre propre nature et ne plus dépendre de Dieu. Voilà la promesse du serpent. Tentation épouvantable. Et c'est un mensonge qu'il leur disait là. Des mensonges. Et si Adam et Ève ont cru ce mensonge, eh bien, c'est parce que ça flattait en eux l'amour propre. Ils n'ont pas été véritablement trompés. Ils ont été séduits, peut-être, oui, mais ils n'ont pas été complètement trompés. Hein, parce que ce mensonge n'a pu trouver prise en eux que parce qu'il y avait en eux un petit peu d'amour propre, un petit peu d'orgueil, oui, hein, le désir, hein, de leur perfection, mais excessif. Oui. C'était un mensonge qu'il leur disait là, mensonge qu'il avait rendu malheureux lui-même. Eh oui, c'est ça, qui fait son malheur à Satan. Et Satan ne peut pas supporter d'être tout seul malheureux. Et c'est pour ça qu'il s'acharne à attirer le plus possible d'âmes en enfer. Il ne veut pas être tout seul. C'est embêtant, avouez quoi. S'il était tout seul en enfer, bon, pas drôle, quoi, hein, bon, si on peut dire. Et ils vont entraîner le plus d'âmes possible en enfer, oui, voilà. Il veut gagner contre Dieu. Il sait très bien qu'il perdra, mais ça ne fait rien, il s'entête. Eh oui. Les mauvais anges avaient été grands, riches et heureux, mais dans cette même dépendance de Dieu, avant le péché, bien sûr, et leur maître Lucifer voulut se considérer et se faire considérer comme ayant ses grandeurs et ses excellences en lui-même. Le péché de Lucifer, c'est le même. Il ne voulut plus se complaire en Dieu, en qui seuls sont renfermées toutes les excellences, mais en lui-même, indépendamment de Dieu. Et il tomba dans l'orgueil, qui consiste à chercher, à considérer cette excellence et à en jouir comme si elle était en soi et inhérente à sa nature, et par là à se rendre indépendant de son Dieu. Ça, l'orgueil. Hein. Vouloir jouir du bien qui est en nous, mais comme si c'était inhérent à notre nature, comme si ce n'était pas reçu de Dieu, et par là se rendre indépendant de son Dieu. Soif d'indépendance, qui est le péché de tous les hommes et de toutes les révolutions. L'indépendance, le refus de Dieu. Voilà. Dieu, s'il existe, eh bien, qui reste dans son ciel, mais qui nous laisse tranquille sur la terre.